Bonjour, vous écoutez FM Plus, 91 FM Montpellier. C'est le 8e numéro de l'émission Le Fil du Fer, l'actualité plus ou moins actuelle des projets en tout genre et des chemins de vie. La langue manque pour dire et la main pour écrire toutes les merveilles de la mer. Christophe Colomb. Nadira Hitamer, vous avez 42 ans, vous êtes née à Alger, vous avez grandi à Douaira, en Algérie, entre mer et montagne, à 300 mètres d'altitude, dans la Métidia. Vous êtes binationale, franco-algérienne, vous avez des racines kabyles et auvergnates. Vous habitez la région montpelliéraine. Durant la période de la terreur en Algérie, vous avez obtenu deux baccalauréats scientifiques, l'un algérien en langue arabe, l'autre français en langue française. Vous avez fait des études en océanographie. Vous avez obtenu en 2007 à l'université de Perpignan via Domitia une thèse de doctorat dont le domaine d'étude est l'océan et le climat. Vous êtes revenu ensuite à Alger pour intégrer comme maître de conférence l'École nationale supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral, l'ESMAL. Vous avez été ingénieur, chargé de recherche et développement et chargé d'affaires chez Coldep Développement. Vous avez besoin d'aventures qui coupent le rythme métro, boulot, dodo. Vous écoutez, pour préparer cette émission, m'a donné à entendre une histoire méditerranéenne, turbulente et heureuse, de mer, de terre, d'hommes et de femmes. Nous parlerons de multiculturalisme, d'eau, de missions scientifiques en Antarctique, oh, c'est dur à dire, de l'état des océans, de la gastronomie, de votre histoire familiale sur deux rives, histoire liée à celle de deux pays, la France et l'Algérie. Bonjour Nadira.
Bonjour.
Partons de là. Que signifie votre prénom ?
Mon prénom signifie rare, la rareté.
Ah, oh, très joli. Pour me nommer la Terre, vous avez grandi, vous avez dit la Métidia. Pourriez-vous expliquer ce que désigne ce mot, s'il vous plaît ?
Bah, la Métidia, en fait, c'est la parcelle qui est cultivable entre la mer et la montagne en Algérie. Donc, c'est toute la zone au nord. Et donc du coup, j'ai eu beaucoup de chance d'être dans cette partie-là parce que j'étais à la fois tout près de la mer et pas très loin de la montagne.
Si nous faisions l'expérience de fermer les yeux et de vous écouter nous parler de la terre de votre enfance, celle dont vous venez de parler, que verrions-nous ? Qu'entendrions-nous ? Que respirerions-nous ?
Non, c'est un peu compliqué la question, il y a beaucoup de choses. Mais moi déjà, quand je pense à l'Algérie, je pense à la lumière en fait. Il y a une lumière très particulière. Et au niveau des odeurs, les orangers dans la Métidia quand on se promène. Et puis ce mélange de couleurs avec la mer, ce bleu qui peut changer de jour en jour et accompagné du vert des pins et la montagne qui passe de ses couleurs d'hiver à ses couleurs de printemps.
J'ai été frappé par ce que vous m'avez raconté de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos grands-mères surtout. Je vous demanderai tout à l'heure d'évoquer plus longuement ces dernières qui m'ont tout l'air de femmes d'exception. Parlons, si vous le voulez bien, de vos parents. Comment se prénomment-ils ?
Eh bien, mon papa, il s'appelle Rachid et ma maman, Michel.
Quelle est leur histoire, leur parcours ? Au temps de l'indépendance algérienne, leur histoire d'amour était-elle simple ? C'est peut-être une narration de va-et-vient, d'immigration, d'émigration, au fil des remous de l'histoire algéro-française que vous allez partager maintenant.
Ah, c'est vrai que c'est une belle histoire. Moi, mon papa est né à Paris, en fait. Donc, mes parents kabyles d'Algérie. Mon grand-père, pendant l'époque Algérie-française, avait eu la chance de pouvoir faire des études. Il était horticulteur, mais étant algérien, ne trouvait pas de travail. Et donc, du coup, il a dû immigrer en France. Et il a rapatrié sa famille, donc ma grand-mère à l'époque. Et mon papa est né, en fait, la première année où ils sont arrivés, en 48, en France. Voilà, donc mon papa est mon oncle. Et mes grands-parents rentrent en Algérie en 67, après l'indépendance. Et mon papa, donc, les suit, il a une vingtaine d'années. Et il découvre ce pays qu'il ne connaissait pas, une langue qu'il ne parlait pas non plus, vu qu'il est francophone. Et ça a été une découverte pour lui, un pays tout neuf, sortant de la guerre, et avec une envie très forte de participer à sa construction.
Et pour votre maman ?
Alors ma maman, donc pharmacienne, à cette époque-là, elle est étudiante en pharmacie, et puis elle a un ami d'enfance dont les grands-parents étaient pieds noirs, et qui l'invite à venir passer quelques jours de vacances en Algérie. Et ils ont un ami commun sans le savoir, mon père et ma maman, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et puis, c'est le coup de foudre.
C'est beau, les coups de foudre. Qu'est-ce que c'est beau. Et dans la seconde partie des années 60, comme vous voulez, 70, vos parents décident de s'installer en Algérie, un pays dont ils sont fous d'amour, comme vous venez de le dire. Votre papa, d'origine algérienne, est un pur parisien, m'avez-vous dit. Il a mis à distance de lui la culture et les mœurs de l'Algérie, tandis que votre maman embrassa ses traditions et ses coutumes avec affection. Comment se sont-ils enracinés dans ce pays, l'Algérie ?
En fait, c'est vrai que culturellement et au niveau des traditions, tous les deux, ma grand-mère était pratiquante, ma grand-mère paternelle, pratiquante musulmane. Donc, on a participé à toutes les fêtes en fait religieuses, d'une part comme de l'autre. Mais ma maman, donc arrivant en Algérie, bien sûr, dans un pays donc qu'elle découvrait, une langue qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle parlait aussi que le français. Elle arrive, elle a un poste de pharmacienne à l'hôpital de Douéra, et puis elle est imprégnée en fait par ce pays. Elle participe à la mise en place de comment on appelle ça dans toutes les régions autour, parce que Douéra à cette époque-là est une toute petite ville, il faut le savoir, même si l'hôpital est reconnu. C'est un grand hôpital, mais la ville est petite et donc du coup, il y a plein de dispensaires en fait dans les villages aux alentours. Et elle participe à des campagnes de vaccination, de sensibilisation au planning familial. Et elle œuvre en fait pour le développement finalement du pays aussi à sa manière. Et tous les deux, mon père et ma maman, décident même d'apprendre l'arabe. Donc, ils prennent des cours d'arabe avec des sœurs religieuses libanaises à Alger pour pouvoir, ma maman, entre autres, pour pouvoir communiquer avec le peuple qu'elle reçoit à la pharmacie pour délivrer les médicaments. Et à la fois pour nous suivre, nous, dans notre scolarité au début, étant donné que notre langue maternelle, mon frère et moi, est le français. On rentre à l'école donc fondamentale avec l'arabisation et donc pour pouvoir nous suivre sur nos premières années, être sûr qu'on est bien mis sur les rails, il découvre aussi la langue.
Votre histoire, alors pas votre histoire d'amour, mais la conclusion, c'est-à-dire vous, c'était, je reviendrai sur ce que j'avais posé tout à l'heure, c'est est-ce qu'il était simple de s'aimer quand on était d'origine algérienne et quand on était française ? Comment est-ce que ça a pu se passer, le regard des familles, le regard de la société à cette époque-là, si vos parents vous en ont parlé ?
Un petit peu, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début, du côté de ma maman. Leur fille s'en va de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'est quand même difficile de la laisser partir. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord au départ. De l'autre côté, ma grand-mère, qui elle, en fait, a été obligée de quitter son pays de naissance pour immigrer en France et elle y retourne. Elle a une peur bleue que ma maman embarque son fils de l'autre côté aussi de la Méditerranée. Donc finalement, c'est au départ un peu à couteau tiré, mais au final, mes parents s'aiment et puis mes grands-parents comprennent que c'est plus fort et donc ils acceptent la situation. Et nous, en plus, en arrivant, mon frère, d'abord moi et mon frère après, on fait le bonheur finalement puisqu'on est les premiers petits-enfants de mes grands-parents de part et d'autre de la Méditerranée.
Et voilà, vous êtes nés de grand-mère, vous et mère. Je vais vous laisser évoquer, sans vous interrompre, Nadira, ces deux figures essentielles pour votre vie. Commencez peut-être par là. comment s'appelait-elle ?
Alors, ma grand-mère algérienne, Fatima, voilà, c'était son prénom. Et je l'appelais Mémé Couscous quand j'étais petite. Et mon papa me disait, je ne parlais pas encore, que quand je voulais aller chez ma grand-mère, je faisais le signe de manger. Donc voilà, j'ai le souvenir des bons petits plats qu'elle préparait traditionnels, des crêpes et des galettes et des beignets qu'elle faisait même en plein été à 40 degrés pour nous faire plaisir. Ma grand-mère, c'est un sacré bout de femme. C'est une expression. Elle avait une force intérieure qui m'a toujours j'ai toujours essayé de prendre en fait exemple sur ma grand-mère. C'était une femme qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Elle est née en Kabylie avant la guerre d'Algérie, mais pendant l'occupation. Et elle me racontait qu'il y avait beaucoup de misère. Et comme elle me disait qu'elle était arrivée en France, elle ne connaissait pas la paire de chaussures. Et donc, elle arrive dans ce pays où elle ne connaissait pas non plus la langue. Elle ne parlait que le kabyle. Et elle a pris des cours du soir pour apprendre le français. Elle a œuvré pour l'indépendance de son pays en étant à l'étranger. Et elle a toujours, c'est une battante en fait. Elle a un fond de battante. Et je l'ai jamais, j'ai pas souvenir de l'avoir entendu se plaindre en fait. Elle racontait les choses, la difficulté de la vie qu'elle a pu mener, et à la fois la joie qu'elle a vécue à l'indépendance de l'Algérie, la joie de son retour, de voir ses enfants aussi, et épanouis dans leur vie. Et c'est vrai que ça a toujours été un modèle pour moi, ma mamie algérienne.
Et pour la mamie auvergnate, qui, alors, je crois, m'a dit qu'elle allait habiter en Normandie. Vous m'avez parlé de Noël fabuleux avec des repas, des cadeaux, etc. Donc, je suis curieux d'en entendre aussi encore.
Alors, ma grand-mère auvergnate, Jeanne, voilà, qui était auvergnate d'origine et de naissance. Donc s'est mariée, a vécu en fait en Normandie, parce que mes arrière-grands-parents étaient vendeurs de toiles. Les Auvergnats avaient souvent de travail. L'été, c'était la ferme avec les vaches, ils coupaient, ils fanaient, etc. Et puis l'hiver, en fait, ils partaient pour vendre des toiles, ils partaient sur toute la France. Voilà, donc ils voyageaient. Et donc, du coup, ils avaient une maison en Normandie. Voilà, donc ma grand-mère a rencontré Jean, mon grand-père, à l'école. Ils se sont beaucoup aimés aussi toute leur vie. Et du coup, de temps en temps, venait passer Noël en France. Quand ce n'était pas Alger, on le passait en France, en famille. Voilà, autour de grandes tables. Ma grand-mère aimait beaucoup recevoir et elle cuisinait très, très bien.
Et vous m'avez dit que votre grand-mère auvergnate vous a donné par l'ADN et la couleur de vos cheveux, c'est-à-dire la rousseur.
Oui, l'arrière-grand-mère, oui, elle était, elle était rousse. Ouais. Et je me souviens très bien d'elle. Je l'ai perdue, je devais avoir 10-11 ans en fait. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de mon arrière-grand-mère aussi. Et des vacances qu'on passait en Auvergne dans cette maison de famille où, pareil, elle nous faisait des galettes, des crêpes, des choux farcis, des bonnes tartines de pain bis.
Arrêtez, n'en jetez plus. Nous allons écouter chanteur kabyle Idir. Vous avez choisi cette chanson pour cette émission Nadira. Quelle raison présida à ce choix ?
Eh bien, en fait, c'est la chanson un peu de mon enfance, parce que ma grand-mère adorait chanter, adorait danser. Et elle me jouait souvent ce refrain, ce morceau, à la darbouka. Et du coup, elle me disait même que je ne marchais pas encore, que je dansais déjà assise sur ma chaise dans mon transat. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que oui, la danse, c'est aussi une partie de moi.
Alors, écoutons le chanteur Itir.
Thank you.
سدين قوريت رفل سويت سرويت يا ذلوانات ولوين تسرحم في غراثين كما يمس بوسين سويت سرويت الدولة تماس سكرت زيويني ورا رقي حلس مداس وهو لقنا في القيم فرحة ليالي واس كما تقال أنا غارتي ثيم فرحة ليالي واس كما تقال أنا غارتي ثيم إيه يا إيه عم وتفوز هواهاو إيه يا إيه عم جدي في الغلاتي ساناو إيه يا إيه عم وتفوز ليقرز هير إيه يا إيه عم جدي من غرض فير يكرزهير يكرزهير جدت من غرض الفير يكرزهير يكرزهير إيه رويت
Toujours sur Radio FM+, 91 FM Montpellier. Vous écoutez l'huitième numéro du Fil du Fer. Nous écoutons le parcours de vie de Nadira Aitamer, océanographe, et à travers elle, comme une histoire intime des rives de la Méditerranée. Nadira, de quoi s'occupe l'océanographie ?
Alors, l'océanographie, c'est l'étude des océans, en fait. Donc, c'est très vaste. Puisque ça regroupe à la fois la partie écologie, biologie, l'étude de la biodiversité marine et toute une partie sur la physique qui comprend en fait la circulation des océans, la circulation marine. L'océan c'est pas des masses d'eau qui bougent pas, mais en fait elles sont en continuel mouvement. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on est quelque part sauvés en termes de climat. Et puis, il y a une partie chimie. Donc, toute la partie de la chimie de l'eau qui régit finalement aussi toute la vie dans les océans. Donc, l'océanographie, c'est vraiment un ensemble de choses qui permet au final de comprendre le fonctionnement des océans et de ce qui vit dans les océans.
Vos parents souhaitaient vous voir embrasser la carrière de pharmacienne, métier de votre maman ou de médecin. Comment êtes-vous arrivée à devenir ni l'une ni l'autre, mais bien océanographe, comme vous entendiez le devenir ?
Alors, ce n'est pas mes parents qui souhaitaient que je devienne pharmacien ou médecin. C'était plus mon entourage, en fait. Les amis autour de, en tout cas, le milieu professionnel de ma maman qui me disaient « Ah, mais pourquoi tu ne ferais pas pharmacie comme ta maman ? C'est un chouette métier. » Et puis autour de moi, c'est vrai que j'avais de bonnes notes, j'étais une bonne élève. Donc, pour tout le monde, le métier, le meilleur métier, c'était médecin, quoi. Et c'est vrai que non, je me voyais pas ni dans l'un ni dans l'autre, mais l'océanographie, les sciences de la mer, en fait, c'est quelque chose qui m'a... La mer m'a toujours attirée. D'abord parce que mon papa était plongeur. C'était pas son métier de départ. Il était dans l'électronique, en fait, mon papa. Mais il a découvert la plongée sous-marine en Algérie. Et en fait, il a plongé, mais plongé littéralement dans la plongée. Il en a fait en fait une passion. Et il a participé du coup à la formation de beaucoup, beaucoup de plongeurs en Algérie, puisqu'il a été un des pionniers, un des premiers à suivre les formations pour pouvoir donner des diplômes et former, ce qui n'existait pas en Algérie à l'époque. Voilà. Donc j'ai baigné dans l'eau depuis toute petite.
Vous avez grandi choyée et heureuse dans un milieu culturel algérien et international. Je vous invite à le décrire et nous dire quelques mots sur son influence sur vous, je vous prie.
Ah oui, je remercierai jamais assez mes parents pour ça, parce que moi je trouve que c'est un plus vraiment d'avoir pu grandir dans cette pluriculturalité, le fait de vivre en Algérie, d'être... Alors déjà dans la famille, c'est vrai que mon papa est algérien de sang, je dirais, mais de naissance, et il est, voilà, il parlait pas l'arabe, il parlait que le français, donc il découvrait aussi une culture et des traditions du pays, même si ma grand-mère lui faisait sûrement des galettes et du couscous à la maison, mais voilà, c'était quand même... Donc j'ai vraiment grandi dans cette pluralité de religion aussi. Ma maman chrétienne, ma grand-mère chrétienne, ma grand-mère algérienne musulmane. Donc j'ai grandi dans cette ouverture, l'ouverture d'esprit, l'ouverture vers l'autre, vers la différence aussi. Parce que finalement, j'ai appris à accepter l'autre comme il était. Et mes grands-pères, comme mes parents, nous ont donné cette opportunité d'être dans cette diversité. Et je trouve ça fabuleux. Ça m'a énormément nourrie et ça me nourrit encore aujourd'hui.
Vous rentrez à l'université comme étudiante en 1993. La situation politique et sociale se dégrade alors en Algérie. Le temps des attentats islamistes commence. Vous avez 18 ans. Quelles décisions prennent alors vos parents ?
Alors à ce moment-là, c'est vrai que c'est difficile. Ça fait plusieurs années que le terrorisme est bien là. Et ma maman ne veut pas partir. Mon papa a plusieurs fois craint pour elle et veut la mettre dans l'avion, mais elle refuse. Et puis cette année-là, il décide qu'il faut partir. Donc, mon papa ne pouvant pas nous suivre pour des raisons à la fois travail, et puis ma grand-mère, elle ne pouvait pas rester toute seule. Mon oncle était déjà, lui, parti avant parce qu'il était universitaire et avait été mis en danger, si je puis dire ça comme ça. Donc, du coup, on est mis dans le bateau et on part en 93, en septembre 93. Et c'est vrai que c'est un départ qui n'est pas vraiment choisi au final et qui est très difficile. C'est une grosse déchirure à ce moment-là. En tout cas, moi, pour moi, c'est comme ça que je le vis.
Parlez-nous de votre thèse maintenant, Nadira. Vous étiez inscrite à l'université de Perpignan via Domitia. Elle a pour titre « Contribution à la quantification du CO2 anthropique en mer Méditerranée et en mer de Ross ». Trouvable sur la toile, son résumé commence par « Pour contribuer à une meilleure connaissance du rôle des océans dans la séquestration de l'excès de CO2 atmosphérique, CO2 anthropique, nous avons quantifié ce dernier en mer de Ross et en Méditerranée ».
Alors, ma thèse de doctorat, j'ai la chance en fait de trouver un sujet passionnant donc sur Perpignan, avec une directrice de thèse qui était à l'époque Madame Goyer, et je la remercie encore aujourd'hui de m'avoir proposé le sujet. Au départ, moi j'étais en fait chimiste, pas chimiste au contraire, mais plutôt biologiste, pardon, et écologiste de formation universitaire. Et on propose ce sujet qui est plutôt orienté chimie. Et donc c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, mais je me suis quand même jetée à l'eau parce que ça me passionnait. C'était les débuts de ces questionnements sur les échanges air-mer en CO2, la séquestration du carbone par les océans. Et donc je me lance dans cette thèse. Et donc le sujet à l'époque vraiment très nouveau, c'était donc d'essayer de quantifier la part provenant de l'activité humaine, du CO2, qui est absorbée par les océans et qui est séquestrée. Alors, par quels moyens, c'était la question, dans les océans. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur deux zones, la Méditerranée et puis l'Antarctique.
En quoi cette recherche est importante alors que nous sommes, dit-on, entrés dans l'anthropocène et vivons le changement climatique mondial ? Popularisé par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, j'espère que je prononce bien, en 1995, le mot anthropocène désigne la période qui a débuté lorsque les activités anthropiques ont laissé une empreinte sur l'ensemble de la planète.
Mais en fait, cette étude était importante pour comprendre. On savait déjà que l'océan avait un rôle dans l'absorption du CO2. Mais on avait beaucoup de données sur les océans comme l'Atlantique, le Pacifique, qui étaient bien sillonnés en termes de données scientifiques et de mesures. Mais concernant la Méditerranée et puis les pôles, que ce soit l'Arctique ou l'Antarctique, on n'avait pas trop, pas beaucoup d'informations encore. En fait, on en avait besoin pour comprendre comment l'océan fonctionne et pour pouvoir utiliser, en fait, finalement, les résultats de mesures in situ pour faire des prévisions sur le long terme avec les modèles. Parce que les modèles ont besoin de vraies mesures pour pouvoir être validés. Et donc, les campagnes océanographiques sont aussi là pour ça. Et alors, ma petite contribution, c'était de pouvoir amener une pierre à cet édifice. Voilà.
Vous êtes parti faire des relevés scientifiques dans le sud, dans le nord du monde, pardon. Racontez-moi, dans le sud, pardon, on va y arriver, dans le sud, exactement. Racontez-moi l'Antarctique, s'il vous plaît.
Alors, la mission d'Antarctique se met en place pendant ma thèse. Donc, c'est une équipe italienne qui veut mesurer donc, le CO2 dissous dans l'eau et puis qui contacte donc, mon directeur de thèse. Et puis, elle me dit, écoute, tu vas y aller. Alors là, moi, j'étais toute excitée à l'idée d'aller en Antarctique. J'avais fait une mission en Méditerranée et là, l'Antarctique, c'était vraiment très différent. Donc, grosse préparation. Et puis, en plus, je suis responsable des mesures à bord. Donc, tout repose, en tout cas, les mesures de CO2 reposent sur moi. Donc, ça met pas la pression. Et donc, cette expédition, elle est magique. Je pars avec une équipe italienne. Et donc, c'est pour moi une visite vers l'inconnu. Mais surtout, je vais aller toucher du doigt. Je vais aller chercher des échantillons qui, pour moi, c'est comme de l'or, quoi. Parce que ce sont des échantillons qui vont nous amener tellement d'informations. Des échantillons qui sont compliqués, en plus, à aller chercher. Parce que c'est l'Antarctique, c'est quand même pas tout près. Il faut l'organiser. C'est hostile comme endroit. Il y avait beaucoup de banquises encore au moment où on est arrivé. Donc, il y avait le risque aussi que la mission n'aille pas jusqu'au bout pour des raisons climatiques, de météo. Donc, c'est vrai que je me souviens encore le premier échantillon qui venait de 2000 mètres de fond ou 3000. L'eau était gelée, j'avais les doigts gelés, mais j'étais tellement heureuse d'avoir cette bouteille d'eau entre les mains. Et j'ai choyé chaque échantillon en me disant que chacun, en fait, allait nous donner une information cruciale sur le devenir de ce CO2. Alors, je voudrais quand même le préciser, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport à l'intérêt de la mesure du CO2. La période industrielle, en fait, a été une période qui a été accompagnée par des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui, on en parlait beaucoup moins il y a 20 ans. Ce CO2 dans l'atmosphère, en fait, a un rôle d'effet de serre. Et donc, du coup, ça ajoute un effet de serre. C'est ce qu'on appelle un effet de serre additionnel par rapport à l'effet de serre qui existe déjà naturellement au moment où la planète, en fait, se forme. Et sans cet effet de serre naturel, la Terre serait un bloc de glace. Donc, c'est grâce à cet effet de serre naturel qu'il y a de la vie sur Terre telle que nous le connaissons. Mais cet effet de serre additionnel entraîne donc une augmentation de la température globale. Et c'est cette augmentation de la température globale qui a des conséquences néfastes, en fait, sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le globe. Et donc, l'idée, c'était de comprendre, de voir voilà, où allait ce CO2 dans les océans et quels étaient les mécanismes en fait, qui permettaient de séquestrer ce CO2 qui est en excès et de le quantifier.
Nadira, qu'est-ce que vos expéditions scientifiques en Antarctique, donc dans le sud et en Méditerranée, ont modifié chez vous et dans votre relation aux autres et au monde ?
Oh, c'est... c'est compliqué. Mais en fait, les missions en mer en général, que ce soit en Antarctique ou en Méditerranée, c'est des moments pour moi où je me sens en communion en fait, avec mon environnement et pleinement dans ma passion. Je me sens complètement aussi, comment dire, utile, là pour quelque chose. Et du coup, ça donne une force particulière. Où, au final, dans le quotidien, je ne suis pas quelqu'un de toujours très organisé, on me l'a souvent reproché. Et au final, quand je suis en mission, je suis quelque part quelqu'un d'autre.
Nadira Itamer, au moment de nous dire au revoir, je vous laisse redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation.
La citation que je vais avoir choisie, c'est celle que disait mon papa quand j'étais toute petite, il passait à une émission de radio pour parler de la plongée sous-marine en Algérie. Et en fait, il avait cité la citation de Christophe Colomb, qui dit donc que les mots manquent pour dire et la main pour écrire toutes les merveilles de la mer. Voilà.
C'était le fil du fer, où l'on apprend que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles, chers cerveaux à l'écoute, je vous dis à dans 15 jours pour l'émission numéro 9. Qu'avez-vous prévu de faire d'ici là et au-delà ?